Chers adhérents, chers amis de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Maurienne, la séance du mois de décembre de la Société ne peut être tenue en raison des conditions épidémiques. C'est pourquoi je vous propose d'écouter ou de lire cette nouvelle conférence qui parle de quartiers insalubres de Saint-Jean de Maurienne qui doivent, au XIXe siècle, être démolis pour construire le nouvel hôtel de ville, le palais de justice et la sous-préfecture. Initié par le docteur Motard pendant les quelques années où il a été maire de Saint-Jean, ces projets seront soumis à de très nombreuses contestations. L'intervention d'aujourd'hui est donc intitulée « Le docteur Antoine Motard et la construction de l'hôtel de ville palais de justice à Saint-Jean-de-Maurienne ». La ville de Saint-Jean-de-Maurienne, bâtie comme on faisait au Moyen-Âge, dans l'étroit espace que laissaient les murs d'enceinte, n'est qu'une agglomération mal construite de granges, d'écuries et de cours humides à travers lesquelles serpentent des rues étroites et froides. On y manque d'air, on y vit dans le marasme. On dirait que cette ville dévore ses habitants, ils se recrutent au dehors. On y compte peu de familles anciennes, elles sont moissonnées par certaines maladies endémiques bien connues, hélas. Or, ces maladies n'ont d'autre cause que l'insalubrité, cela est notoire. Mais ce témoignage n'est pas le seul qu'on peut trouver ou lire sur l'état de la ville à cette époque. Un autre auteur, qui signe Belzoff de Surel, qui est le pseudonyme de Camille Gabriel Forêt, qui était greffier de justice à Saint-Jean et membre fondateur de l'Acham, et il écrivait: je parcourais il n'y a pas longtemps la ville de Saint-Jean-de-Maurienne, cette ville antique aux rues sombres et tortueuses. Dans cette pérégrination lente, à cause du pavé scabreux et grossièrement enchâssé le long du ruisselet qui descend du Borieux, je me disais: que de bâtiments qui chancellent sous leurs toits et leurs planchers pourris, que de victimes de la misère, de la malpropreté et de la nonchalance, peut-être gisent dans ces bouges. Rien qu'à voir sortir les enfants des écoles, on est pénétré de la nécessité de construire une ville neuve sur cette agglomération de quartiers infects et malsains. Le premier constat assez accablant est fait au mois de septembre 1865, le second en 1867. Certes, des efforts ont été faits depuis 1830, en ouvrant la grande voie qui traverse la ville d'un bout à l'autre sous le mandat du syndic le chevalier Ducol. Monseigneur Jourdain, le futur évêque d'Aoste, alors vicaire général, avait donné les premiers coups de la démolition avec une masse de fer. La place Grenette s'étale maintenant au lieu où l'on ne voyait guère que des constructions informes et des bâtiments délabrés. Une large voie est ouverte entre la rue Bonrieu et le quartier des écoles des filles. Mais il reste encore deux quartiers, celui de Bonrieu et celui qui fait face à l'aile droite du palais épiscopal, qui sont totalement insalubres. Déjà, en 1779, l'évêque de Maurienne, monseigneur de Martignana, s'était proposé pour acheter ce pâti de maison pour y faire une place. Son départ pour l'évêché de Vercheil l'en avait empêché. Alors ce quartier, qui n'avait qu'une seule issue, était sillonné par des impasses tellement étroites que deux personnes ne pouvaient les parcourir de front, et il était occupé par une quarantaine de familles. Les maisons, vieilles, noires, sales, irrégulières, sont enchevêtrées les unes dans les autres. Elles sont tellement lézardées que chaque année des pierres s'en détachent, et l'état de délabrement est devenu tel que, si un angle de mur était venu à tomber, tout le reste se serait écroulé en écrasant ceux qui se trouvaient chez eux. Un autre auteur ajoute: « Le quartier est composé d'habitations insalubres, ruineuses et noires. C'est un monstrueux enchevêtrement de baraques, d'étables, d'allées tortueuses et malsaines, où se concentrent tous les égouts, d'où s'échappent les plus mauvais miasmes, et où ne pénètre ni air ni soleil. On y rencontre le goitre, le crétinisme, le rachisme sous toutes ses formes et les scrofules. Je vous rappelle que les scrofules, c'est ce qu'on appelait autrefois les écrouelles, et c'est une maladie qui est provoquée par des troubles nutritifs qui entraînent des inflammations chroniques de la peau, des muqueuses, des ganglions lymphatiques et des articulations, et qui prédispose à la tuberculose ou à la syphilis. Les médecins envoyés en 1862 pour rechercher les causes du crétinisme l'ont visité et ont reconnu la nécessité d'un prompt assainissement. Le 22 mars 1862, le docteur Antoine Motard est installé comme maire de la ville de Saint-Jean-de-Maurienne par M. Dieu, le préfet du département, qui reçoit son serment en présence du sous-préfet de l'arrondissement, M. le baron de Faverges, et du conseil municipal. Antoine Motard, chevalier de l'ordre royal des Saint-Maurice et Lazare, est qualifié d'homme dévoué à son pays et que le public désignait depuis longtemps pour ce poste élevé et difficile, succède à M. Richard. Le préfet, qui a tenu à installer personnellement le docteur Motard, insiste sur cette nomination d'un médecin habile et versé dans les connaissances hygiéniques, ce qui correspond bien aux besoins actuels de la ville, qui a tant à faire en ce moment du point de vue de l'hygiène et de l'assainissement. Dès le départ du préfet, que le conseil a raccompagné jusqu'à sa voiture, les conseillers entrent en séance. Antoine Motard, après une courte allocution pour remercier les membres du conseil, fait connaître les travaux les plus urgents qu'il compte effectuer, puis fait un énergétique appel à l'union et à la concorde entre les membres du conseil et les principales autorités locales. Le soir même, le conseil offre au maire un banquet pendant lequel a régné une animation et une gaieté qui laissaient voir la satisfaction de tous ceux qui ont pris part. Au sortir du banquet, les conseillers accompagnent le maire jusqu'à son domicile, la maison où est né François-Emmanuel Faudéré. Une émotion indicible s'est emparée de lui lorsqu'il a vu Saint-Jean spontanément illuminé dans toutes ses rues. L'empressement, la joie avec lesquels il était fêté sur son passage. Lorsque débouchant sur la place de la cathédrale où il réside, il la vit remplie de monde. Lorsqu'il entendit la foule à plusieurs reprises crier « Vive Monsieur le maire !», son émotion redoubla et il sentit ses forces l'abandonner et il dut s'appuyer au bras de deux conseillers pour pouvoir rentrer chez lui, raconte un de ses amis, François Coche, architecte à Saint-Jean. Dans son appartement, il trouve des fonctionnaires, des notables de la ville et une foule de dames et de jeunes personnes. L'accueil le touche profondément, des larmes jaillissent de ses yeux et il s'exclame « Je suis donc aimé de mon pays ». La foule l'attend sur la place, la fanfare joue, Antoine Motard redescend pour un bain de foule. 10 jours après son installation, le docteur Motard vient à Chambéry, insister auprès de l'administration préfectorale pour pouvoir débuter les travaux d'assainissement de la ville. Deux facteurs militent en faveur de ce projet. On craint une nouvelle épidémie de choléra qui serait catastrophique dans ces quartiers insalubres. Et, deuxième chose, le départ des 500 employés qui travaillaient à bâtir la ligne de chemin de fer a laissé vacants de nombreux appartements sains et sûrs qui pourraient être attribués aux familles vivant dans les taudis. Le préfet de la Savoie, M. Dieu, touché par la misère qu'il avait vue dans ce quartier, décide de soutenir le maire. Il appelle le conseil municipal à délibérer en ce sens. La ville de Saint-Jean ne possède ni palais de justice, ni mairie. Il est constaté depuis longtemps que le local où se tiennent les audiences de justice ne ressemble en rien à un sanctuaire de la justice. Chaque année, on voit figurer au budget une somme assez importante destinée à ne pas laisser nos édiles siéger et délibérer en plein air. Alors ces deux édifices, promis dans le cadre du rattachement, sont à bâtir. L'hôtel de ville, uni au palais de justice d'un côté, et la sous-préfecture ensuite. Pendant la période révolutionnaire, les bureaux et le logement du sous-préfet et du concierge avaient été installés dans le palais épiscopal. Le tribunal et le conseil de ville siégeaient jusqu'alors dans un appartement loué. Le conseil municipal décide d'assigner la maison et l'enclos de M. le chevalier Victor Brunet, en face de la maison Roche, pour construire la sous-préfecture, et le quartier insalubre pour la mairie. Alors cette solution, qui reçoit l'assentiment immédiat du préfet, permet de supprimer deux quartiers malsains et mal bâtis, d'embellir la ville et de construire les deux édifices publics au centre de la ville. Aussitôt, M. Desnariers, l'architecte du département, est chargé de dresser les plans et les devis, ce qu'il fait après une sérieuse et minutieuse étude des lieux. L'achat des terrains destinés aux deux établissements et les frais de démolition sont estimés à 125 000 francs et il faut compter 130 000 francs pour la construction du bâtiment double Hôtel de Ville Palais de Justice et 80 000 francs pour la sous-préfecture. En mai 1863, le nouveau préfet de la Savoie, M. Jolibois, vient visiter la ville, se fait présenter le projet. Il annonce que non seulement il l'approuve, mais qu'il ne changera pas un iota à ce qui avait été si sagement arrêté par son prédécesseur. Il explique que la suite du projet consiste d'abord à réfuter maintes objections, à triompher d'oppositions opinâtres, à s'ingénier à trouver des ressources. Et le 31 du même mois, M. Jolibois annonce que le projet a reçu l'approbation ministérielle et que le décret pour cause d'utilité publique a été signé par Sa Majesté l'Impératrice le 23 novembre 1862. En juillet 1863 ont lieu de nouvelles élections municipales. Il semble que le nouveau conseil commence à contester les choix du docteur Motard. La commission, instituée sous sa présidence pour l'achat des terrains, décide, contre son avis, que l'ouverture de la rue de communication du quartier de Bonrieux avec celle de Beauregard est prioritaire, en raison du mauvais état de la plupart des bâtiments à démolir, lesquels interceptent les rayons du soleil et empêchent la circulation de l'air, entretenant ainsi l'insalubrité. Alors, il est intéressant de constater que ces arguments utilisés par les membres du conseil municipal reprennent exactement les propos que tenait le docteur Motard en 1854 lors de la première épidémie de choléra. Il disait « Ne devrions-nous pas procurer à nos populations un bon air, du soleil et la libre circulation du vent ? C'est peu, mais c'est presque tout. Il est encore temps. À l'ouvrage et déclarant une guerre active, instantanée, une guerre à outrance, aux immondices, aux amas de fumier et de substances en putréfaction, aux mauvais fruits, aux arbres qui nous entourent, enveloppent et couvrent de leur ombre funeste les habitations de nos campagnes. » Le 6 septembre 1865, le docteur Antoine Motard peut donner lecture du décret impérial déclarant d'utilité publique la construction d'un hôtel de sous-préfecture et la construction d'un bâtiment dans lequel seraient établis le tribunal et la mairie. Cette annonce apparaît pourtant comme un barreau d'honneur, car le projet est attaqué de toutes parts. Le docteur Motard semble même donner l'impression de renoncer dans une réponse qu'il fait à Amédée Léret, qui a publié dans le Courrier des Alpes un article intitulé « Une promenade à Saint-Jean-de-Maurienne », dans laquelle il écrit « C'est aux ailes éclairées de M. le docteur Motard que Saint-Jean-de-Maurienne devra la construction d'un palais de justice, d'un hôtel de ville et d'un hôtel de sous-préfecture. » Antoine Motard lui répond le 7 janvier « Que je m'en sois occupé, beaucoup occupé, plus même que qui que ce soit, c'est vrai. Personne ne le contestera. Du reste, je devais le faire, c'était mon devoir. Étant de Saint-Jean, je devais en qualité de maire faire tout ce qui pouvait dépendre de moi pour l'intérêt de mon pays. Je devais chercher à profiter de la circonstance unique qui se présentait pour le rassainir et l'embellir. Pour être toujours dans le vrai, Je dois ajouter que je n'ai jamais été seul à l'œuvre. J'avais pour soutien le conseil municipal qui n'a reculé devant aucune difficulté pour atteindre ce but. Ce que je veux aujourd'hui, ce que j'ai toujours voulu, le conseil le voulait avant que je fusse maire et il n'a jamais changé d'avis. Qu'aurais-je fait seul ? Aurais-je pu lutter victorieusement contre les obstacles que l'on opposait à cette entreprise ? Obstacles que je ne qualifierais pas. Les obstacles sont en fait l'apparition d'une opposition, d'une défiance envers le docteur Motard, qui est battu aux élections du 23 juillet 1865. Alors cette défaite passe très mal. Antoine Motard l'attribue à des attitudes curieuses pendant la campagne. Et il explique. Dès que l'on sut à Saint-Jean d'une manière positive, le jour où les élections devaient commencer, la population fut conviée au champ de foire pour être instruite. Là, tout près d'un cabaret, plusieurs orateurs se succèdent pour haranguer la foule. On commençait à bien disposer l'auditoire par de nombreuses libations, puis on lui parlait de l'abolition des impôts, de la suppression de l'octroi et de mille autres attrape-niais de la même force. On lui présentait ensuite une liste d'édiles qui devaient ramener l'âge d'or dans le pays, puis de nouveaux discours étaient annoncés pour le lendemain. De jour en jour, la foule des auditeurs devenait plus nombreuse, attirée et par l'éloquence de ces nouveaux démosthènes, et surtout par les boissons succulentes qu'on lui distribuait gratuitement et à profusion. Cependant, le jour des élections arrive. La partie intelligente et instruite de la population, qui avait regardé avec dédain ces singulières comédies qui se jouaient depuis quelques jours, s'était portée au scrutin pour nommer des administrateurs dévoués au pays et capables de défendre ses intérêts. Il arrive alors une singulière chose. La garde pompière, craignant de perdre la bataille, se divise par escouade. Tous les quartiers de la ville et des alentours sont fouillés, avec soin, et bientôt l'on voit apparaître une armée de crétins, bien escortés et dirigés sur l'hôtel de ville. Un personnage, coiffé d'un magnifique képi et portant sur son pantalon bleu une bande du rouge le plus beau, conduisait chacun de ses électeurs à la salle de scrutin, où il était introduit, après avoir reçu de son guide un bulletin qui lui avait été soigneusement placé dans la main. On voit que les crétins sont quelquefois utiles, et l'on s'explique pourquoi certaines gens s'opposent à toutes les améliorations qui pourraient en faire disparaître l'espèce. Ils seraient privés par là de cette phalange dont ils savent si bien tirer parti dans l'occasion. Le 6 septembre 1865, Antoine Motard quitte les fonctions de maire. Son éviction est la conséquence d'une attaque systématique de son projet sur le plan financier. La ville de Saint-Jean-de-Maurienne n'a de façon récurrente jamais d'argent, c'est connu. Pourtant, déjà aux élections de 1863, le préfet M. Jolibois était venu au secours du maire en précisant, lors d'une visite, que l'achat des terrains et les frais de construction de l'hôtel de la sous-préfecture étaient, contrairement à ce qui avait été annoncé, uniquement à la charge du département. Et il ajoutait que si les bâtiments et les terrains à acquérir coûtaient plus cher qu'on ne les avait évalués, on laisserait inachevés les travaux de l'intérieur du bâtiment de la mairie pour les poursuivre au fur et à mesure que l'on aurait des fonds disponibles. On craint, après les élections, que les travaux ne soient arrêtés. Quelques personnes bien intentionnées essayent de calmer les esprits. Il n'y a pas un seul habitant qui, de bonne foi, ne convienne qu'à Saint-Jean, la plus antique cité de la Savoie, que Saint-Jean, la plus antique cité de la Savoie, n'ait besoin d'être régénérée. Mais une partie de la population criait à l'ancien conseil « Doucement, n'allez pas si vite en besogne, hâtez-vous lentement, ménagez nos bourses. » D'autres, au contraire, disaient « L'édifice est commencé, achevons-le, cela fera circuler le numéraire parmi la classe laborieuse et ouvrière. » L'auteur poursuit Je ne suis pas le moins du monde initié aux affaires du pays. Je suis un homme de travail. Mais si je ne me trompe, c'est bien là, au point de vue d'intérêt public, ce qui a amené cette division déplorable dans les esprits. Question d'opportunité. Personne ne pourrait révoquer en doute que l'ancien conseil, composé des personnes les plus honorables, n'ait déployé dans le cours de ses sessions un infatigable zèle pour le bien public. Personne ne doute, et tout le monde espère, que le nouveau conseil fera ses preuves. Mais ce qui est regrettable pour le pays, c'est cette rivalité d'opinions qui se croise et se heurte en tous sens. Espérons que cette légère effervescence populaire, une fois calmée, tous auront bon esprit de s'entendre. Alors les chiffres concernant l'achat des terrains et la construction des deux bâtiments peuvent être facilement manipulés, d'une part en raison de la complexité de l'origine de ressources, et ensuite du fait que, comme tout chantier public, la somme finale à payer est bien supérieure au devis initial. L'architecte avait chiffré la dépense à 209 400 francs. Les ressources consistent en 100 000 francs alloués par l'État pour le palais de justice, 25 557 francs de subvention du département et 15 000 francs versés par l'État au titre des subventions pour les mairies des départements annexés, ce qui était prévu dans les promesses faites lors de l'annexion. La ville peut prendre sur ses fonds propres 17 741 francs. Les soucis commencent avec l'emprunt de 60 000 francs qu'il faut faire pour compléter la dépense initiale. Alors les opposants ont beau jeu d'annoncer que pour payer cet emprunt, il faudra augmenter les impôts, ce que bien sûr ils refusent. Les divergences s'aggravent lorsqu'on réalise que l'achat des terrains, estimé à 23 100 francs par l'architecte, coûtera en réalité beaucoup plus cher. En effet, si une dizaine de propriétaires a accepté un règlement à l'amiable, mais pour une somme déjà supérieure à 23 500 francs, un certain nombre d'autres ont formulé des demandes qui ont paru exagérées et il va falloir les exproprier. Le jury d'expropriation estime à au moins un tiers en plus la somme nécessaire. Le coût de la construction des bâtiments estimé à l'origine à 55 400 francs devrait en fait dépasser les 74 000 francs. Mais l'opération pourrait quand même se réaliser, car la commune va disposer de nouvelles recettes fiscales par une augmentation prévue des tarifs de l'octroi. Pourtant, la situation stagne. Aujourd'hui, on semble adopter une tactique nouvelle d'opposition en laissant vieillir la question, en l'enterrant sans motif plausible. Les partisans du maintien du projet avancent leurs arguments. La ville est en mesure de payer toutes les augmentations, même les plus invraisemblables. Jamais entreprise n'aura été commencée dans de plus favorables conditions. Toutes les villes de l'Empire, depuis la capitale jusqu'au plus petit bourg, font de suprêmes efforts pour se reconstruire et s'embellir. Les municipalités ne reculent devant aucun emprunt. La ville de Saint-Jean a besoin de s'assainir, elle demande de l'air et de la lumière, elle demande la salubrité de ses habitations. Le nouveau conseil ne lui refusera pas l'air et la lumière nécessaires à la vie. Il ne condamnera pas une partie de ses habitants, des concitoyens, des êtres humains, à habiter des cloaques et à devenir la proie des maladies les plus tristes qui puissent affliger l'humanité. Le rédacteur en chef du Courrier des Alpes, M. Pourchet, ajoute « Si nous songeons aux bienfaits apportés par l'annexion aux autres villes de Savoie, si nous considérons les travaux qui s'y sont faits et qui s'y font tous les jours, si nous réfléchissons que dans de petites et pauvres communes de notre Maurienne, on a presque imposé l'obligation de construire des mairies, des maisons d'école sans trop s'inquiéter de la modicité des ressources, ne sommes-nous pas en droit de se demander pourquoi rien ne se fait à Saint-Jean ? Le dernier argument utilisé est celui qui consiste à dire que la dépense est utile, qu'elle n'est pas un sacrifice puisqu'elle donnera du travail aux habitants. Au fond, tout le monde voit et comprend que par ce moyen, notre classe ouvrière cherche à se préparer une nouvelle ère de prospérité. Elle demande du travail et désire travailler dans l'intérêt de tous. Le manque de travail dans les grandes cités amène les grèves. Certainement, nous n'avons pas de grève à redouter dans notre petite ville, mais nous avons des misères à prévenir, des bras à occuper, de justes aspirations à satisfaire. Alors le problème financier, eh bien, il va être résolu par une procédure courante à cette époque, l'appel à souscription et à la générosité publique. Cet élan généreux et spontané a trouvé un écho dans le cœur de tous les bons citoyens. En moins d'une semaine, tous avaient souscrit, le pauvre comme le riche, et les hauts personnages de notre ville souscrivaient pour des sommes réellement importantes. Le docteur Motard n'a pas présidé lui-même à l'exécution des travaux. Mais dans ses 3 années d'administration communale, il a bien mérité de ses concitoyens. Ce qui permet en 1867 à Belzoff de Surel d'écrire « sous prétexte de placer les écus que les avares thésaurisaient jadis quelque part, un homme, plus que ça, un citoyen, s'est levé du sein de ses fameux cloaques où l'on voyait croupir tant d'insouciantes familles et il a dit à un puissant de la terre « Il faudra régénérer cette tribu de crétins et d'hydropiques. » Des hommes, des égoïstes, veux-je dire, l'ont entendu et ils ont dit entre eux « Cela ne presse pas. » Pourtant, hier, qu'ai-je vu à ma grande joie ? De vastes décombres, là où mouraient sans bruit depuis des siècles des centaines de malheureux et d'idiots. Là, bientôt, vous contemplerez 3 palais, un pour le tribunal et ses annexes, l'autre pour la mairie, le troisième pour la sous-préfecture. Et pourtant, il a fallu vaincre comme un maringot à Austerlitz, à Wagram, pour obtenir que la ville se rasséréna, se purgea à l'instar des fiévreux. À qui la faute de tant de retard et de tant de batailles à la préfecture et à l'hôtel de ville ? Faut-il l'attribuer aux indigènes ? Aux autochtones ou aux cosmopolites qui forment une race hybride, race jalouse, hargneuse, tracassière, autant que les aborigènes sont lents à se décider, parcimonieux, méfiants dans les discussions d'intérêt public. Que de récriminations ont été ouïes et écrites, que de louables susceptibilités d'un côté, de cabales et de défections de l'autre, et cela pour de petits, bien petits intérêts privés, quand les intérêts publics devaient tout dominer. Je vous l'ai dit, le docteur Motard ne reste que 3 années maire de la ville de Saint-Jean-de-Maurienne. Il est à l'origine du projet donc pour la mairie, le palais de justice et la sous-préfecture, mais il ne les dirige pas et il ne le termine pas, le chantier. Or, cette action d'embellissement, d'assainissement et d'amélioration de la ville aurait pu constituer l'apogée de sa carrière dans la ville. Alors cela amène à s'interroger sur le personnage. Hyperactif dans sa ville natale, Antoine Motard est à l'origine ou fait partie intégrante de la réalisation de la statue de François-Emmanuel Faudéré, du jardin expérimental, de la bibliothèque municipale. Il semble que ses capacités soient bien utilisées lorsqu'il s'agit d'actions menées avec peu de personnes, et où ses seules qualités sont exploitées, pas son relationnel. Son échec à la municipalité, où il a été nommé et non pas élu, son éviction du poste de médecin de l'hôpital, ses déboires avec les membres de la milice communale, où il essuie de nombreux échecs dans sa tentative pour être officier, laisse penser qu'il ne réussit pas dès lors qu'il doit être élu. Sa personnalité semble avoir nui à sa notoriété. Elle est décrite par Charles Buet, certes dans un roman intitulé « Les bourgeois de Garossel », comme un monsieur tout habillé de noir, mais râpé comme un 18e clerc d'huissier, omnisavant, sentencieux, matérialiste et spirite, théologien consommé, médecin émérite, démocrate et socialiste, fort aristocrate en ses manières et libéral à la façon de ceux qui ne veulent de liberté que pour eux. Le professeur Bruno Berthier, dans son étude « François-Emmanuel Faudéré et la Savoie, une influence réciproque », montre une autre facette du personnage. Heidi, un libéral notoire, comploteur, franc-maçon, soucieux d'accéder à l'hôtel de ville, obstiné à montrer ses actions à Chambéry et à la morgue des vieilles élites nobilières qui y font l'opinion et l'humilient en lui refusant avec constance un fauteuil au sein de l'Académie de Savoie. Il ne dépassera pas le stade de membre correspondant dans cette académie. Antoine Motard envisage même à l'origine de faire de sa société d'histoire une filiale de la Société savoisienne d'histoire et d'archéologie, société rivale, historique et politique de l'Académie de Savoie. Il a plus de succès avec les administrations puisqu'il reçoit plusieurs décorations, tant de l'administration sarde que française. Pierre Daunier, dans son article « Une ville et ses notables, Saint-Jean-de-Maurienne au XIXe siècle », tout en précisant qu'il est souvent l'instigateur des projets, fait remarquer qu'il donne l'impression d'être l'exécutant sur place. Il ajoute, en parlant des personnages célèbres de Saint-Jean-de-Maurienne, « D'emblée, on peut remarquer que ces notables ne sont pas tous de même extraction. Certains, par leur naissance, semblaient destinés à la notabilité, d'autres étaient de familles beaucoup plus modestes. Quant au docteur Motard, il était fils de jardinier. En tout cas, le bâtiment double, comprenant le palais de justice d'un côté et l'hôtel de ville à l'opposé, est inauguré le 30 avril 1871. La sous-préfecture date également de la même époque. Et je vous remercie de votre attention.